don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What's your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母亲南家，
कपड़ों की लोचेरी की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clémence Alézard, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en ce matin par Jacques Hubert. Dernier volet consacré aux forêts cette semaine, aujourd'hui petite pérégrination dans les mythologies forestières.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Donc vous avez décidé de raser toute la forêt ?
Oui !
Mais on la remplace par un centre commercial avec la forêt comme thème.
Les animaux se sont ligués contre moi.
Mais c'est délirant !
Vous bâtissez sur une réserve naturelle.
Stop !
Et ça met la nature en colère.
Nombre de ces arbres étaient mes amis. Ils avaient leur voix propre. Sauman. Ce n'est pas digne d'un magicien.
Regardez les arbres. Ils avancent.
Il était une forêt de Luc Jacquet, La forêt contre-attaque de Roger Campbell, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, documentaire, comédie, fantasy, tous les genres cinématographiques se sont emparés de l'objet forêt, preuve s'il en fallait qu'elle est absolument incontournable. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts, écrivait Henry David Thoreau dans son essai Walking, publié pour la première fois en 1862 dans la revue Atlantic Monthly, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois et de La désobéissance civile. Considéré comme un précurseur de la foresterie et de l'écologie moderne, a largement contribué à cet imaginaire de la forêt comme refuge, lieu de repli idéal pour fuir une société vécue comme un instrument d'oppression. La forêt est le lieu de l'introspection, du retour à soi, du recueillement, mais il est également un espace de loisirs, un dernier carré de liberté et de rêverie pour des citadins coupés de la vie sauvage dans les grandes villes bétonnées. Entre Princesse Mononoke de Miyazaki, qui s'est inspiré de la forêt de Yakushima au Japon, et le bois légendaire du Roi des Aulnes de Michel Tournier, cette mythologie de la forêt a été abondamment relayée par le cinéma et la littérature. Dernier exemple en date, Le bois dont les rêves sont faits, le dernier film de Claire Simon. Sorti dans les salles en avril, la documentariste est allée à la rencontre des sans-abri, des prostituées, des promeneurs du bois de Vincennes pour tenter de percer les mystères de cette grande forêt périurbaine extrêmement fréquentée. On en parlera aujourd'hui. Comme elle, nous allons partir en promenade, parcourir ensemble la forêt de Fontainebleau, le parc national de Campinos en Pologne, la taïga ou encore les mangroves tropicales. La forêt est-elle un nouveau refuge pour les marginaux, les rêveurs, les sportifs ou les promeneurs des grandes villes occidentales? La relation à la forêt est-elle la même en France, en Pologne ou en Amérique du Nord? Quelles sont les forêts remarquables? Quels sont les arbres dits remarquables? Comment et pourquoi les considérons-nous comme tels? Et qu'est-ce que ces choix nous disent des différences de perception, de représentation entre les cultures? Et comment nos fantasmes et nos projections sur la forêt, lieu de danger et de magie, ont-ils évolué au cours des siècles? Voilà les grandes questions sur lesquelles on va se pencher ce matin avec un invité, Paul Arnoux, bonjour.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous, Paul Arnoux. Vous êtes géographe et même biogéographe. Vous êtes professeur à l'ENS Lyon. Vous avez consacré quasiment l'entièreté de votre travail à cette question des forêts. Vous êtes l'auteur d'un dernier ouvrage, paru il y a 2 ans maintenant. Au plaisir des forêts, promenade sous les feuillages du monde. Donc un livre consacré au plaisir de la forêt. Vous y rappelez tous les bienfaits, tous les services qu'elle a rendus jadis et qu'elle rend encore aujourd'hui. La production de bois pour chauffer, pour construire, pour se nourrir, la chasse, mais aussi peut-être plus récemment un lieu devenu aussi espace de loisirs. On y va pour se promener à pied, à cheval, en VTT. D'ailleurs, vous dites qu'aujourd'hui, les urbains voient davantage la forêt comme le simple décor de leurs activités de loisirs précisément et moins pour peut-être ses autres fonctions. Au fond, c'est peut-être par ça qu'il faudrait commencer, Paul Arnoux, c'est de dire qu'on demande beaucoup à nos forêts. C'est les fameux 3 pro que vous évoquez, produire, protéger, promenade. C'est vrai que les hommes demandent beaucoup à leurs forêts et finalement, elles doivent répondre à tous nos besoins, à toutes nos aspirations. Paul Arnoux.
Oui, alors je suis effectivement d'accord. Ce que vous dites, c'est que j'ai
c'est ce que vous
écrit
dites.
À certains moments, donc... Comment ne pas être d'accord? Forêt a tout faire, oui, parce que on lui demande tout et souvent des choses assez contradictoires. Les trois pros, produire, se promener et puis protéger. Il y a des pays où ces fonctions, elles sont séparées. On se dit, c'est pas possible de faire tout sur le même espace, le même territoire. En France, si, c'est le choix depuis des siècles de faire en sorte que la forêt soit un lieu de production d'arbres, mais aussi d'autres produits, et puis aussi un lieu où on essaye de protéger la faune, la flore, les arbres, et puis où on peut circuler, où on va soit pour des motifs professionnels, soit de plus en plus maintenant dans notre société d'urbain, pour des motifs récréatifs, des motifs de loisirs, des motifs de plaisir.
On va en parler. Votre ouvrage s'ouvre, Paul Arnoux, sur la question de savoir ce qu'est une forêt. C'est une question qui n'est pas si évidente que cela, tant elles sont diverses, et vous le disiez, la forêt de Méditerranée n'a rien à voir avec la forêt tropicale du Congo ou les forêts de conifères d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt, alors au-delà bien sûr de la définition assez basique qu'on va nous donner dans un dictionnaire, où on va nous dire c'est une vaste étendue forestière, et d'où vient cette difficulté finalement à définir la forêt?
Ben effectivement, c'est parce que la forêt c'est un ensemble d'arbres, et les gens sont pas d'accord sur ce qu'est un arbre. Il y a des grands arbres, des petits, il y a des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, il y a les arbres d'ici et les arbres d'ailleurs, il y en a des chétifs, il y en a des géants, et donc comment arriver faire avec cette diversité? En plus, il y a des forêts minuscules, il y a des bosquets, des bocteaux, des tout petits objets forestiers, et puis il y a des massifs de grande taille. En Europe, souvent, au-delà de 10 000 hectares, on parle d'un massif forestier. Et puis, il y a des forêts géantes, la forêt du Canada dont vous avez parlé en début de cette série d'émissions, la taïga russe, pendant des milliers de kilomètres, on parcourt des paysages répétitifs, apparemment monotones, mais qui en même temps ont de l'allure. Cette immensité, c'est un facteur qui laisse un peu pantois, même si on n'est pas dans la marqueterie des paysages méditerranéens ou des forêts de montagne.
Ce flou sur la définition, Paul Arnoux, il nous permet aussi de mesurer combien il peut être facile, tentant de manipuler les chiffres sur les surfaces forestières. D'ailleurs, je crois que vous êtes assez... vous considérez qu'on a peut-être une vision un peu alarmiste sur les phénomènes de déforestation, je me trompe?
Alarmiste, oui et non, parce que effectivement, on peut manipuler. Les grandes études faites à un moment donné sur les superficies forestières mondiales, parler des grands instituts de recherche, on arrivait entre des superficies proches de 2 milliards d'hectares à l'échelle de la planète à 6 milliards d'hectares. Preuve que les gens parlent pas de la même façon. Et quand on n'a pas la même référence, on peut dire tout et son contraire. On peut dire qu'elle augmente, qu'elle est stable ou bien qu'elle diminue de façon catastrophique. On est sûr qu'effectivement, il y a de la forêt qui est coupée, surtout dans les forêts denses, tropicales, d'Amazonie, du Congo, d'Indonésie. En revanche, dans les pays développés de l'hémisphère nord, États-Unis, Canada, Europe, la forêt regagne du terrain depuis un siècle, et surtout depuis la fin de la dernière guerre. Donc il y a des situations très contrastées, et vouloir mettre tout dans le même panier, et avoir un discours alarmiste, ça me gêne par moment. Mais en même temps, une forêt coupée, c'est pas forcément une forêt morte. C'est une forêt qui va se régénérer, qui va se reconstruire, qui mettra peut-être des siècles, voire des millénaires à retrouver sa biodiversité, sa diversité de structure, un fonctionnement équilibré. Mais une forêt coupée, c'est pas la fin d'une forêt. Donc là aussi, effectivement, quand vous évoquiez, je crois que c'était l'émission sur les pygmées, tout ça, où les bulldozers passent et où on met des plantations de palmiers à huile, là, ça va être dur de refaire une forêt. Mais à la limite, une fois la plantation de palmiers à huile éliminée, la forêt peut revenir. Elle a une capacité de cicatrisation, de reconquête. Elle est là depuis des millions d'années. Elle en a subi des avanies. Donc, celle de l'homme, c'est pas triste, mais c'est pas irrémédiable, à mon avis.
Alors, comme vous, la cinéaste Claire Simon, dont je parlais tout à l'heure, aime bien aller dans les bois pour échapper à la frénésie de la ville, pour retrouver un tout petit peu de calme. Alors, il n'est pas utile d'aller très très loin. Hein. Le bois de Vincennes est là, à portée de métro. Et là, s'ouvre donc un nouveau monde, celui qu'elle montre dans son dernier film, Le bois dont les rêves sont faits, extrait.
Je suis bien. Mon petit univers, mon petit paradis. C'est ici que je suis en communication avec tout ce qui est sain.
Il y en a, ouais, ils sont stressés, t'es obligé de les calmer, t'inquiète pas, chouchou, je connais, c'est mon coin.
Pour nous, dans la forêt, il y a beaucoup d'esprits protecteurs.
Voilà, extrait de Le Bois dont les rêves sont faits, bois de Vincennes à Paris, donc je le disais, à portée de métro, où on peut croiser un sportif venu entretenir son corps, une femme, elle, venue vendre son corps, ou bien encore un SDF venu ici parce que la ville ne veut plus de lui. Vous êtes beaucoup intéressé, Paul Arnoux, à ce bois-là et à sa place, finalement, dans la ville, une sorte de dernier refuge pour ses habitants.
Oui, je me suis intéressé au bois de Boulogne, au bois de Vincennes à certains moments, mais c'était pas mes objets de recherche principaux. J'ai surtout travaillé sur la forêt de Fontainebleau au sud de Paris, ou bien la forêt de Saint-Gobain-Coussibas à 120 km au nord de Paris. Mais les bois de Boulogne et de Vincennes sont véritablement deux objets intéressants. Alors, moi, je les ai pas étudiés très spécifiquement. J'ai un collègue historien qui est devenu maintenant un spécialiste des animaux de la Grande Guerre. Alors je confonds toujours les prénoms de Monsieur de Rex, qui a fait des livres d'historiens sur le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et donc là, ça les a inscrits dans la longue durée, et c'est une vision assez classique, même si on voit les pérégrinations de ces bois au cours de l'histoire. Dans les années 80-90, avec une étudiante, on avait étudié le bois de Vincennes. La mairie de Paris voulait fermer certaines routes à la circulation et donc il voulait connaître un peu les pratiques de fréquentation, les lieux très fréquentés. Et à l'époque, j'avais participé à des entretiens avec elle et j'avais été interrogé les prostituées dans leur petit camping-car ou leur petit...
Ça doit faire un drôle d'effet quand on voit débarquer là un universitaire qui fait une enquête.
Là, c'était pas évident, justement, parce qu'on vient avec ces mots, disant, voilà, vous venez comment, vous restez combien de temps? Et on n'est plus du tout dans le même questionnement que pour un promeneur, un pêcheur à la ligne, dans le lac, ou un joggeur. Donc, c'est des populations qui sont très difficiles à appréhender. Et puis récemment, j'ai des collègues de géographes, Étienne Grésillon et Jean-Paul Amatte, qui travaillent sur cette question des sans-domicile fixe au bois de Vincennes, qui ont quitté les bouches de métro ou les bancs des souterrains pour aller en forêt. Ils ont publié des articles passionnants sur comment un SDF s'installe dans le bois, comment il installe sa cuisine, sa chambre à coucher, il stocke ses aliments avec des lieux. Il faut que ce soit des lieux un peu protégés, mais ils sont assez nombreux et se posent des problèmes de cohabitation avec les promeneurs classiques et avec les forestiers qui gèrent le bois.
Ce qu'on voit aussi d'ailleurs du côté de Fontainebleau, parce que si on pousse un tout petit peu, on se retrouve dans cette forêt de Fontainebleau à laquelle vous êtes beaucoup intéressé, qui voit passer chaque année, quand même j'étais impressionné, quasiment 15 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait d'ailleurs la forêt la plus fréquentée d'Europe. C'est plus finalement un espace sauvage où règne la nature, c'est quasiment une extension finalement du domaine urbanistique. Mais vous dites à propos de Fontainebleau que c'est une forêt qui évoque en tout cas pour nous un milieu naturel par excellence, qui a su finalement se soustraire à l'action de l'homme, alors qu'en réalité, c'est une forêt qui a été beaucoup manipulée par l'homme.
Oui, on a du mal à s'imaginer la forêt de Fontainebleau, notamment sous l'Ancien Régime, à l'époque médiévale. Quand vous aviez des carriers qui taillaient du grès, en veux-tu, en voilà, c'était une forêt très bruyante. Vous aviez des milliers de moutons, de vaches, de porcs qui venaient en forêt pour pâturer les sous-bois ou pour manger les glands. Et donc, ces animaux avaient des carillons, il y avait des chiens, il y avait les petits bergers. Et c'était une forêt hyper bruyante, une forêt très fréquentée. Dans notre esprit cartésien, Descartes disait souvent, si tu te perds en forêt, tu tires tout droit. Mais dans une forêt qui serait à l'état semi-naturel, c'est très dur d'aller tout droit parce que vous avez des ronciers, des arbres couchés au sol, vous êtes sans arrêt obligé de changer de direction. Et donc, être cartésien dans une forêt pas trop manipulée, c'est pas évident. Par contre, dans la forêt que Descartes voyait, qui était des forêts propres en ordre, au sous-bois, où les sociétés paysannes venaient tout racler, tout ramasser avec leurs troupeaux, ou bien ramasser du bois mort pour se chauffer, on avait des forêts où c'était facile de circuler et de tirer tout droit. Et donc, la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui ensuite a été hyper manipulée au 19e siècle. C'est devenu la forêt loisir par excellence, qui a commencé à déverser des cargaisons de Parisiens, et avec un type génial qui s'appelait Dencourt, le Sylvain de la forêt, qui a réussi à faire les premières cartes de la forêt, les premiers itinéraires, et qui a vendu la forêt.
Bon, on va nous aussi tirer tout droit, on va tirer dans la direction de l'Est, on va traverser quelques frontières et on va se retrouver dans une forêt que vous connaissez. Écoutez un petit peu l'ambiance, peut-être que vous allez reconnaître. Si vous tendez bien l'oreille, c'est possible.
something else. Yeah.
Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais...
Dziękuję bardzo.
C'est du côté de Campinos, on est là en Pologne, pas très loin de Varsovie. Vous avez réalisé une étude justement dans laquelle vous comparez le statut des arbres remarquables dans la forêt de Fontainebleau dont on parlait et celle de Campinos. On est donc à côté de Varsovie. Pourquoi avoir comparé ces forêts de France et de Pologne et qu'est-ce que nous apprend cette comparaison?
C'est parce que j'étais dans un laboratoire, j'étais co-directeur d'un laboratoire où le directeur était un Polonais, Stanislas Wiszrek, et on a eu de multiples contrats et de coopération avec les Polonais, aussi bien dans les Carpates, vers Zakopane ou les Beskides, les grandes forêts du sud, mais aussi dans les forêts périurbaines. Et j'ai eu une étudiante qui était d'origine polonaise, mais bon, installée en France, Caroline Cieslak, qui a travaillé, qui avait entamé une thèse sur les forêts polonaises et notamment sur Campinos. Et en voyant son travail, je me suis dit, on a là deux modèles forestiers, même si Varsovie, c'est moins grand que Paris ou que l'Île-de-France, même si Campinos, c'est plus petit que Fontainebleau, mais c'était deux forêts où la stratégie de protection des arbres remarquables, les études des milieux, y avait des similitudes. Et comme en géographe, on adore comparer l'ici et l'ailleurs, donc je me suis lancé dans cette comparaison. Ça permettait de bien mettre en perspective... À la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est d'aller ensuite voir ce qui se passait à Vienne ou dans d'autres forêts de capitales européennes. Mais c'était l'amorce d'une comparaison de forêts en capitale.
Alors, il y a des similitudes, mais aussi des différences. Si on regarde par exemple Fontainebleau, l'arbre qu'on dit remarquable, absolument exceptionnel, c'est le chêne Jupiter, dont la disparition totale en 1994, d'ailleurs, avait créé l'émoi, avait créé beaucoup de débats à l'époque. D'ailleurs, le journal de l'Humanité avait écrit, je cite, donc c'est 10 mai 1994, « La sève du vieux feuillu était fatiguée de monter jusqu'à la cime, elle a cessé son ascension et Jupiter a perdu la vie. » Voilà ce qu'avait dit l'Humanité à l'époque. C'est quoi l'arbre emblématique de Campinos? Et qu'est-ce que ça révèle des perceptions et des représentations de la forêt par les Polonais?
Alors le paradoxe, c'est qu'à Campinos, les trois quarts de la forêt, ce sont des résineux, et notamment des pins sylvestres. Il y a donc des feuillus, des ormes, comme des chênes, des feuillus précieux et des charmes. Et c'est quasiment uniquement les chênes qui sont les arbres remarquables. En France, à Fontainebleau, où il y a seulement un quart de résineux, là, il y a un quart d'arbres remarquables qui sont des résineux. Alors que les résineux ont été, excusez-moi l'expression, flingués depuis l'époque des peintres de Barbizon. Le résineux, c'est l'ennemi à Fontainebleau. Mais malgré tout, les sylvains de la forêt, Duncourt, puis Collinet, qui lui a succédé, puis l'association des amis de la forêt de Fontainebleau, ont jugé qu'un certain nombre de pins, qui sont là depuis seulement deux ou trois siècles, étaient devenus des arbres remarquables, que ce soit des pins maritimes, des pins sylvestres, des pins noirs d'Autriche.
Mais qu'est-ce qui fait justement qu'un arbre devient remarquable? Est-ce que c'est lié à sa rareté? Est-ce que c'est lié à ce qu'il représente dans la culture locale, dans les légendes et autres mythes qui y font référence?
Ben c'est un mixte. C'est souvent...
Que je vous pose la question, parce que vous écrivez quelque chose d'absolument délicieux. Vous écrivez les ingénieurs et les techniciens spécialistes en sylviculture, surtout armés pour raisonner en termes de volume, d'accroissement, de productivité, sont-ils les mieux placés pour intégrer les dimensions historiques, sociologiques, symboliques et psychologiques qui sont intimement liées à l'arbre? C'est-à-dire qu'en gros, l'octroi du caractère remarquable d'un arbre, c'est une affaire trop sérieuse pour vous pour qu'on les laisse dans les mains des ingénieurs forestiers.
Des ingénieurs d'un certain type et d'un certain temps, ils ont bien évolué. Et il y a une collègue de l'Office des forêts qui s'appelait Frédéric Lecomte qui avait fait une étude sur les arbres remarquables qui était tout à fait remarquable et qui montrait que dans tout corps, on peut évoluer, que ce soit dans les ponts et chaussées, les eaux et forêts ou les différents corps d'ingénieurs, il y a des marges de progression. Mais c'est vrai que les arbres, ils y voyaient... Surtout pas du remarquable, ni au point de vue écologique, un arbre mort qui maintenant, dans les arbres morts et le bois mort, c'est devenu quelque chose de très important. Pour les forestiers, longtemps, le bois mort, c'était de la dynamite, c'était le réservoir d'insectes qui allait tuer la forêt. Or, actuellement, on se rend bien compte que les insectes, les champignons xylophages, les insectes saprophytes vont manger du bois mort et restent là et n'attaquent que les arbres faibles ou mourants. Donc, le remarquable, on est un peu dans cette même logique. Le remarquable des arbres, c'était pas forcément le remarquable des ingénieurs forestiers qui ont eu du mal à intégrer cette dimension, mais qui maintenant l'ont intégré.
Vous dites, à Campinos, dans un contexte où le refus des conifères ne s'est jamais manifesté de manière virulente, l'ostracisme frappant les résineux qui ne parviennent à accéder au statut de remarquable que de façon exceptionnelle est tout à fait spectaculaire. Les Polonais ostracisent les résineux.
Je sais, oui, c'est peut-être pas un bon terme, mais ils les oublient. Ils sont là, ils sont partout en Pologne, les résineux, depuis les montagnes du sud jusque dans les plateaux de Mazurie, les pays des lacs en Mazurie. Et donc, le résineux est tellement omniprésent qu'ils n'ont pas pensé à le mettre au statut d'arbre remarquable. Alors, j'ai mis ostracisme, c'est peut-être un peu fort, les relecteurs l'ont laissé passer, mais c'est parce que c'est tellement la banalité.
Non, mais c'est délicieux de tomber sur un terme comme celui-ci.
Bon, ça va si vous le trouvez délicieux.
J'entamais ma troisième semaine dans l'autobus magique. Quatrième jour de famine. Plus beaucoup de riz. Pas de jeu.
Quand on est fort, on peut faire n'importe quoi. On peut aller n'importe où. L'argent, le pouvoir ne sont qu'une illusion. Elles se terminent ici. Ici, on peut exister. Moi et toi.
Vous avez peut-être reconnu Into the Wild, un film réalisé par Sean Penn, sorti en 2017. Cet étudiant américain brillant qui vient d'obtenir son diplôme et qui est promis un grand avenir, mais qui décide de partir sur la route sans prévenir sa famille, qui part du côté de l'Alaska pour s'immerger dans cette nature profonde qui finalement sera aussi son tombeau. Vous avez écrit, Paul Arnoux, un article avec Eric Long qu'on recevait lundi, intitulé « Wilderness, usage et perception de la nature en Amérique du Nord ». Ce thème « Wilderness », alors on pourrait le traduire de façon totalement imparfaite en français par « naturalité » ou « disons le caractère sauvage de la nature, c'est un espace qui n'a pas été modifié par l'action de l'homme, ce qui renvoie donc aussi à l'idée peut-être de réserve naturelle. Comment bien comprendre cette notion et que nous dit-elle de la manière dont les Nord-Américains, on fera peut-être une différence tout à l'heure entre les États-Unis et le Canada, mais dont ils appréhendent la forêt?
Bien, les Nord-Américains, effectivement, c'est des colons blancs, européens, et surtout souvent fort imprégnés de protestantisme, très, très grands lecteurs de la Bible, et donc qui avaient une vision de domination de la nature. Même si dans la Bible, il y a les deux lectures possibles, une lecture dominatrice et puis une lecture où on peut être plus à l'écoute de la nature. Mais il est certain que dans le monde nord-américain, la prégnance de la nature, le rapport à la nature est très différent de celui des vieilles civilisations européennes. Là, ils se sont trouvés confrontés à un milieu neuf, un milieu qu'il fallait conquérir, qu'il fallait défricher. Et il y a eu une surexploitation des forêts, d'abord de la façade est, puis quand on est arrivé dans les forêts de conifères géants aussi, on s'est mis à taper sans compter dans ce patrimoine biologique, dans ce patrimoine vivant. Et il y a eu un certain nombre de voix qui se sont élevées. Alors en introduction, vous avez parlé de Thoreau. C'est pas mon auteur de Wilderness préféré. Je préfère John Muir pour la façade occidentale et notamment le livre Un été dans la Sierra que j'apprécie particulièrement, où il accompagne un troupeau de moutons qui monte dans le Yosemite. Il y a des moutons qui mangent tout, qui piétinent tout, mais lui, il s'éloigne un peu des sentiers et il trouve là une nature relativement protégée. Il va réussir à vendre au président des États-Unis la création des parcs nationaux américains. Puis j'aime mieux encore Arthur Léopold, que je trouve qui est beaucoup plus nuancé. Il y a des représentants, effectivement, avec des lectures de la nature beaucoup plus puissants que ce qui se fait en Europe à la même époque. Cette préoccupation de la nature arrivera seulement au milieu du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 20e siècle en Europe, alors qu'aux États-Unis, ça a été beaucoup plus prégnant plus tôt.
Oui, parce que ce rejet de la wilderness, finalement, ça vient de loin. Quand on regarde, par exemple, au Canada, dès le 16e, les colons, et notamment des gens comme Jacques Cartier, l'un des premiers Européens à explorer, à décrire cette région, à nommer les eaux, à nommer les rives, ou même l'explorateur français Samuel Le Champlain un peu plus tard, tous ces gens-là vont avoir cette vision, finalement, d'une nature dans laquelle les forêts sont à défricher pour mettre, finalement, les terres en culture. C'est quelque chose qui vient donc de loin. Si on regarde peut-être, si on met en miroir les États-Unis et le Canada, est-ce qu'il y a des différences entre la vision américaine et la vision canadienne de la forêt et d'où viennent ces différences?
Or là, je suis mal armé pour vous répondre. Il y a fatalement des différences et Eric Glon serait plus à même à y répondre, ainsi qu'un collègue, Stéphane Héritier, qui travaille sur les parcs nationaux canadiens et américains. Mais dans les deux cas, il y a quand même une grande familiarité. Ça a permis ce rapport à la nature de Les Américains étaient plutôt préoccupés de Wilderness. C'est venu beaucoup plus tard chez les Canadiens, beaucoup moins fort. Il n'y a pas eu des personnalités aussi fortes, même s'il y a eu des peintres. Mais en littérature, on est moins dans ce registre-là et on est plus dans le registre que vous évoquez de Cartier ou de Champlain, qui voit une nature exploitée. Pas seulement les arbres et pas seulement la forêt, mais aussi les animaux. La trappe, la chasse aux castors, chasse aux animaux à fourrure, c'était le fonds de commerce de toute la compagnie de la baie d'Hudson et de tout ce qui se jouait dans les forêts canadiennes. Donc les Canadiens, il y a peut-être la remorque des Américains, si vous voulez.
Ce que dit d'ailleurs Eric Glon, effectivement, qu'on avait lundi, c'est que c'est peut-être aussi lié à la question des modalités des peuplements et de colonisation. Il explique qu'aux États-Unis, ça s'est fait par vagues successives, alors qu'au Canada, disons que c'est une occupation par des postes avancés, par des pénétration un peu sporadique de la nature, avec beaucoup moins d'individus qui s'installent, sans création de ces vastes étendues, peut-être plus propices justement à des installations de pôles d'habitation. C'est peut-être l'une des différences. Pérégrination dans les mythologies forestières, c'est notre sujet ce matin avec Paul Arnaud dans une série consacrée aux forêts.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Et on va prendre à présent la direction du Népal.
Quand j'étais enfant, je passais de longues périodes dans la jungle et dans les grottes. À l'époque, je me suis lié avec les esprits de la nature. Ils m'ont tout appris. J'ai ainsi acquis leur savoir. Les villageois me font entièrement confiance. Ils viennent me consulter jour et nuit pour obtenir un remède ou pour chasser les mauvais esprits. Ils ne me considèrent pas comme un gourou. Ils me respectent parce que je fais du bon travail. Les chamans ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits.
Voici du banmara, une eupatoire très commune. Ses feuilles arrêtent les hémorragies quand une plaie saigne, par exemple. Ça, c'est du pemuk. On l'utilise comme antidouleur. Il soulage la souffrance lors d'une fracture et aide à résorber les hématomes. Les racines sont broyées et pressées. 2 cuillerées à café par jour suffisent.
Voilà, on entendait à l'instant un chaman du Sikkim, on est au nord-est de l'Inde, pas très loin du Népal, dans la région himalayenne qui est sur la frontière nord. On va accueillir un nouvel invité, Gérard Toffin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, un spécialiste des populations et des cultures de l'Himalaya et plus particulièrement du Népal. Vous aviez écrit un article en 2008 dans la revue trimestrielle de l'histoire des religions intitulé « La forêt dans l'imaginaire des populations de l'Himalaya ». Vous y expliquiez que la forêt joue un rôle central dans les représentations religieuses des populations népalaises. Elle y est associée à l'autre, au sauvage, au dangereux, aux morts non pacifiés, en très nette opposition avec le site habité qui, lui, en rapport avec le domestique, les espèces cultivées, les ancêtres. Alors c'est vrai qu'en première approximation, ce qu'on peut dire, Gérard Toffin, c'est que la forêt, elle est vue comme un espace, disons, inhospitalier, dangereux, menaçant, et en même temps, bien sûr, c'est un espace qui fournit des ressources, qui permet de chasser, qui permet de faire de la cueillette. Il y a une vraie ambivalence là aussi dans cette représentation de la forêt au Népal, Gérard Toffin.
Oui, je crois que c'est exactement ça le nœud de la question, c'est cette ambivalence fondamentale que les paysans qui vivent à proximité de la forêt, soit leur village étant juste en dessous, soit juste à côté, il y a une ambivalence par rapport entre ce monde villageois, des maisons, et puis le monde voisin de la forêt. Il y a à la fois le fait que la forêt est un trésor de ressources, bois de construction, bois de chauffe, des plantes sauvages que l'on cueille, etc. C'est un lieu où l'on chasse, où l'on braconne également. Donc c'est ces grands massifs forestiers faits d'essences différentes sont un réservoir pour ces populations qui savent bien d'ailleurs que la déforestation crée un certain nombre de désordres et appauvrit leur style de vie. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un milieu, ce milieu forestier est habité par des esprits masculins ou féminins qui sont foncièrement dangereux. Les périphéries les périphéries des villages, à proximité de la forêt, la lisière de la forêt, sont des lieux où des esprits peuvent voler votre âme et vous rendre malade, et d'où le fait que l'on va voir ensuite un chaman que vous avez interviewé juste avant.
Alors, c'est pas nous qui l'avons interviewé, c'est extrait d'un documentaire, mais en tout cas, effectivement, il y a des esprits dangereux, mais voilà. C'est aussi des esprits qui sont dotés de pouvoirs absolument surnaturels. Vous dites, oui, la forêt, qui est au cœur de l'institution chamanique et des représentations religieuse locale, joue un rôle central dans la manière dont les populations de la chaîne himalayenne pensent l'altérité. En quoi la forêt, justement, aide-t-elle à penser cette altérité? Et puis, quelle figure elle prend? Parce que, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'une altérité qui est centrée autour de cette figure du chaman. Alors, pas pour toutes les ethnies, mais en grande partie.
Oui, alors l'institution chamanique est très importante au Népal et et ailleurs en Himalaya. C'est une institution que l'on voit, que l'on rencontre dans à peu près tous les villages. Et les chamans sont les intercesseurs, hein, entre l'autre monde et puis le monde des villageois, et notamment aussi entre le monde du village et le monde de la forêt. Quand on analyse les récits, comment on devient chaman, on devient chaman très souvent jeune, après avoir été possédé, avoir subi une crise de possession, agi par des esprits de la forêt. Et il y a même dans certains groupes, les Magars par exemple, où l'institution chamanique, les chamans, établissent un espèce de mariage symbolique avec des esprits féminins de la forêt. Donc ce sont des médiateurs, hein, ce sont des médiateurs entre ce monde villageois pacifié, en principe pacifié, et ce monde hostile, à la fois hostile et qui procure des ressources de la forêt. Et les chamans, d'ailleurs quand ils officient, sont parés de tout, de plumes d'animaux sauvages, des pattes, des queues d'animaux sauvages, etc. Et donc ils portent en eux les emblèmes de la forêt.
Oui, d'accord. Donc c'est finalement la forêt, c'est l'espace où se trouve la source de la puissance chamanique. D'ailleurs, ce qu'on appelle les banjangri, c'est-à-dire les chamans de la forêt, voilà. Disons des chamans primitifs, les maîtres chamans qui vont former les jeunes gens prédisposés qui à leur tour deviendront des chamans. Ils se trouvent justement dans cette forêt. Réaction peut-être avec vous, Paul Arnoux, sur cette figure du chaman pour qui, évidemment, la forêt est l'habitat principal.
C'est une figure qu'on rencontre plus tellement dans nos forêts d'Europe occidentale. Ça me fait penser qu'effectivement, ça existe au Népal. Je pense que dans la taïga, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi une figure qui est très, très prégnante, très, très présente. Mais ça me fait penser aussi que dans d'autres forêts, dans les forêts tropicales, vous avez notamment aussi le culte du vaudou, où on a des pratiques, des rapports avec les plantes, avec les animaux, et avec le sacré, avec les mythes, qui ont été à peu près gommé ou occulté dans nos sociétés occidentales. Mais c'est quelque chose qui est quand même très puissant et encore fonctionnel dans certains territoires, dans certains milieux. Et ça pose le problème du sacré, parce que derrière, il y a des rites, il y a une croyance à des valeurs qui nous dépassent. Et parfois, le sacré, c'est un bon moyen de protéger les forêts, tout aussi bien que de la législation, du barbelé. Le fait que certaines forêts soient sacrées, que ce soit dans diverses religions, ça a été un facteur fort de protection.
Alors, effectivement, nous, on n'a pas dans nos forêts d'Europe des chamans qui sortent de la forêt pour initier les jeunes disposés au chamanisme, mais on a quand même encore dans nos esprits ce qui peut ressembler quelque chose, oui, à quelque chose comme, oui, un chaman, on pourrait le dire comme ça, écoutez.
Eh bien, druide, donne-nous cette recette, sinon il en cuira, ton ami.
Je préparerai la potion devant toi, mais il me faut de nombreux ingrédients qui se trouvent en forêt.
Que l'on escorte le druide.
Il faut du gui, des herbes, des rachis, des fleurs, des fonds. Le druide est de retour.
Vite. Essayons notre nouvelle force.
Ah,
Ah oui, Paulin, nous, finalement, notre druide panoramique qui va chercher du gui dans la forêt, c'est un petit peu notre chaman à nous. Chez Uderzo, on voit cette forêt qui renferme tout un imaginaire. Alors, un espace sacré, on le voit avec ce druide qui va chercher les ingrédients pour faire la potion, mais c'est aussi un espace menaçant, en tout cas pour les pauvres Romains qui s'y font tabasser par les Gaulois. Je sais que vous êtes particulièrement friand d'Astérix et que finalement, la BD, c'est aussi un des objets qui a constitué votre propre imaginaire sur la forêt, hein.
Tout à fait. Puis donc les grandes BD classiques qui, à mon époque, étaient le fond de lecture des jeunes adolescents. Effectivement, Astérix, mais aussi Tintin. Il y a deux images de la forêt qui me paraissent intéressantes et que j'ai comparé d'ailleurs dans un café géographique à Lyon sur Astérix et Tintin, écologue, point d'interrogation. Et Panoramix, effectivement, c'est délicieux, la recette de la potion magique. L'album, dans la BD, on lui demande en plus, à la fin, il dit « Ah, il manque encore quelque chose !» Et il dit « Il manque des fraises !» Donc, on voit... Il y a des gens qui détiennent du pouvoir parce qu'ils savent faire des... Ils connaissent la valeur des plantes médicinales, magiques, hallucinogènes. Et ces gens ont un savoir qui leur donne un pouvoir. Actuellement, on retrouve ça. D'ailleurs, encore, il n'y a pas que Panoramix. La liqueur de la Grande Chartreuse, c'est les moines qui ont une recette. Enfin, il n'y a pas que la Grande Chartreuse. Il y a d'autres liqueurs, le Grand Marnier ou le Cointreau. C'est des recettes, ou le noyau de Poissy aussi. C'est des recettes où il y a des fruits, il y a des plantes, il y a des noyaux, et tout ça, c'est tenu secret. Quand vous allez pour la liqueur de la Grande Chartreuse, on vous dit qu'il y a plus de 200 plantes qui entrent dans sa fabrication. C'est beaucoup plus que dans le Coca-Cola, mais là aussi, le Coca-Cola, c'est une recette magique. Et c'est pratique magique, ce goût d'une recette qu'on a réussi à trouver grâce à une connaissance fine des produits naturels. Ça reste à des fondements de nos sociétés.
Merci beaucoup, en tout cas, Gérard Toffin, qui était avec nous en direct. Je rappelle, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de ces populations et de ces cultures de l'Himalaya. Un grand merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre nos pérégrinations, pas facile à dire, dans les mythologies forestière, on va prendre la direction de la taïga.
Capitaine, riz, sol, spiske, mal, mal, давай.
Зачем тебе?
Riz, sol, spiske, переста, заверни, полаган, оставляй.
Уж не собираешься ли ты вернуться?
Зачем вернуться? Другой люди приходи. Сухой дрова найди, кушай найди, пропада нету.
Ты, орел мой сизокрылый.
Extrait de Dersu Uzala, un film soviéto-japonais de 1975, réalisé par Akira Kurosawa, au cœur de la taïga de l'Oussouri, en Sibérie. Dersu Uzala, un chasseur solitaire, nomade, depuis la mort de ses enfants et de sa femme, croise au cours de l'année de 1902 l'expédition de l'explorateur russe Vladimir Arseniev, chargé de faire des relevés topographiques de la région. Dersu devient le guide de l'équipe et apprend peu à peu à Arseniev à connaître et à aimer cette nature qui les environne. Et cet environnement, c'est la forêt boréale, Paul Arnoux, le tiers de la surface forestière de la planète. La forêt boréale, dites-vous, sous ses apparences de forêt immobile et immuable, est en fait une jeune forêt. Que représente-t-elle aujourd'hui pour les Russes? Est-ce que c'est un joyau à préserver? Est-ce que c'est une ressource à exploiter? Est-ce que c'est un espace à surveiller dans un contexte de dérèglement climatique?
Alors, je ne connais pas assez de la littérature scientifique soviétique pour répondre à vos questions, à l'intégralité de vos questions. C'est une forêt qui a joué un rôle géostratégique important dans l'immensité du territoire de l'ex-Union soviétique. La forêt boréale, c'était une source de réserve de bois absolument phénoménale. Et c'était très lié à une économie où on déportait des gens. L'économie du goulag, les camps de déportation se faisaient dans le milieu forestier et on avait des travailleurs forestiers. Il y avait soit des voies ferrées qui exportaient le bois, soit, comme au Canada, on faisait des trains de bois pour, au moment de la fonte des glaces, que tout le bois coupé puisse être évacué, cette fois-ci par voie d'eau. Mais ça a été à un moment donné un des piliers des ressources naturelles exploitées, voire surexploitées en Russie. En même temps, c'est un milieu tellement immense, un milieu qui est gelé une partie de l'année, ensuite qui est un milieu, quand ça dégèle, qui est de la gadoue, de la boue, des fondrières, et où on a énormément de mal à circuler, et où en plus il y a des foultitudes de moustiques. Donc c'est des milieux un peu incontrôlables, ce qui explique qu'il y ait des populations et qui puissent y trouver refuge, mais il faut être costaud hein, pour survivre dans ce milieu gelé une partie de l'année, gadou une autre partie. Et actuellement, c'est un milieu qui n'est pas la préoccupation majeure des dirigeants soviétiques. On l'a vu il y a quelques années, quand il y a eu des très grands incendies, comme pour Fort McMurray, qui ont menacé Moscou. Dès que ça menace l'urbain, on en parle des incendies dans la forêt boréale. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Chaque année, il y a 10 millions d'hectares qui partent en fumée, dont on ne parle absolument pas. Il faut que ça vienne près d'une ville, ou dans un lieu de prospection industrielle pour que ces forêts aient droit au premier rang de l'actualité. Sur ça, ce sont les grandes oubliées des incendies de forêt, des attaques d'insectes, de toutes les agressions que peuvent subir les forêts. Donc, à un moment donné, ça a été plus important pour le régime soviétique dans la période de l'entre-deux-guerres, dans la période des nouvelles politiques économiques, qu'actuellement où la forêt est quand même un objet de trafic, surtout les forêts orientales, avec des frontières poreuses vers la Chine, vers des pays qui ont des gros besoins de bois. Et là, il y a des trafics forestiers qui se font. C'est très difficile à repérer, sauf avoir des images satellites, des satellites pour observer ce qui se fait, mais c'est pas évident.
Alors il y a des trafics, on exploite cette forêt, et en même temps il y a un rapport très fort au sacré. C'est ce qu'on va voir maintenant avec un nouvel invité, Clément Cogitor. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes artiste, vous êtes un réalisateur. Vous avez notamment découvert lors de la sortie de votre premier film, Ni le ciel ni la terre, qui avait été très remarqué lors de sa présentation à Cannes l'année dernière. Mais on va vous entendre aujourd'hui autour d'un autre projet sur des communautés orthodoxes isolées dans la forêt sibérienne qui sera exposé au Bal à Paris à l'automne 2007. Alors le Bal, je l'explique quand même pour les auditeurs, En quelques mots, c'est un lieu d'exposition qui a été fondé par Raymond Depardon, qui est dédié à l'image document, à la représentation du réel par l'image, qui s'est ouvert sur les cendres d'une ancienne salle de bal, d'où le nom. Et donc, vous y exposerez à l'automne 2017 ce projet s'articulant autour de photographies, de textes et de vidéos. Ce projet, il est baptisé Bragino, c'est le nom d'un petit village de Sibérie, fait de maisons de bois, entourées par la forêt, justement, où vivent encore aujourd'hui, de façon autarcique, des familles issues d'une communauté de vieux croyants orthodoxes qui refusent l'autorité de l'État et de l'Église, et dont l'histoire remonte au temps des tsars, on va le voir. D'abord, peut-être un mot sur ce projet. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces familles?
Alors, j'avais entendu parler de ce sujet, c'est-à-dire les vieux croyants, à l'occasion d'un premier tournage en Russie, c'était à Moscou, c'était en 2009, j'avais entendu parler de ça. Et en fait, pour les Russes, c'est quelque chose qui est assez connu, respecté, mais donc on a découvert à la fin des années 80, début des années 90, quand un grand reporter qui s'appelle Vassili Peskov, accompagné des scientifiques au fin fond de la taïga, et avec son équipe, ils sont tombés sur une femme qui s'appelle Agafia, je crois, qui est toujours vivante, qui avait jamais vu dans sa vie d'autres êtres humains que les membres de sa famille. Et en fait, les Russes ont découvert avec ce grand reporter, qui a publié ses reportages, je crois, sur une dizaine d'années, ils ont redécouvert des communautés qui s'étaient enfoncées dans la forêt, parfois au début du XXe siècle, et qui avaient à peine entendu parler de l'époque soviétique ou de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui étaient connectées à un temps d'avant les soviets, et qui pour les Russes étaient très respecté. Alors maintenant, évidemment, c'est plus comme ça. Il y a les communautés de vieux croyants, elles sont répertoriées, elles sont très isolées, mais elles sont répertoriées. En général, il y a un accès quand même assez. On peut y aller en voiture. Après, c'est des petits villages. Mais moi, le projet sur lequel je travaille, c'est deux familles qui vivent complètement coupées de tout, qui sont répertoriées, mais qui sont dans un accès quasi impossible, quoi. C'est-à-dire que de Moscou, il faut faut prendre deux avions, ensuite, il faut remonter le fleuve Yenisseï en bateau, ensuite, il faut traverser la taïga en 4x4 et finir avec un hélicoptère de ravitaillement des troupes ou des équipes scientifiques qui nous larguent sur une île au bord du fleuve. Et là, on est au milieu de quelques maisons en bois où vivent deux familles et où grandissent des enfants sur les bords du fleuve.
Des familles de vieux croyants. Alors pour peut-être bien comprendre finalement dans quelle histoire tout ça s'ancre, il faut rappeler peut-être que ces vieux croyants ont refusé les réformes du patriarche Nikon à la fin du XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le Raxol, le schisme, la réforme de l'Église orthodoxe russe. Et donc à ce moment-là, ont manifesté ce désir de se retirer de la société. Alors à l'époque, le patriarche Nikon était soutenu par le tsar Alexis Romanov. Il réunit un concile pour rénover le sentiment religieux dans l'Empire et rapprocher la liturgie russe des usages grecs. Alors, parmi les modifications, il y avait par exemple le signe de croix à trois doigts et non à deux, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres évolutions. Sauf que certains orthodoxes russes vont refuser cette réforme, car d'une certaine manière, c'est ce qu'ils pensent à l'époque, c'est une attaque à l'égard de l'identité russe, une attaque d'ailleurs qui vient de l'Occident à l'époque déjà. On va appeler donc ces gens les Raskolniki, c'est-à-dire les schismatiques. C'est donc ces vieux croyants. Donc on a affaire là à une résistance à l'égard de la vision de la société que se fait à l'époque l'État russe. Qu'est-ce qui reste précisément de cette résistance? En quoi ces familles s'opposent-elles à la manière dont l'État russe organise, appréhende aujourd'hui le projet sociétal russe, Clément Cogitor?
Alors c'est très compliqué de comprendre, parce qu'en fait il y a des confessions à l'intérieur des confessions, et quand on cherche à vraiment comprendre ce qui différencie déjà le culte, c'est sur des, voilà, vous le disiez, des détails entre le signe de croix à deux doigts ou trois doigts, enfin c'est une histoire très complexe, très longue, c'est un schisme qui remonte quasiment au Moyen-Âge. Mais en gros, il fuit la civilisation, les moteurs, le mode de vie est un peu celui des Amish. Disons, ça c'est dans les communautés de vieux croyants les plus répandues. Et je m'attendais, moi, en allant rencontrer ces familles, à tomber sur exactement ce mode de vie-là. Et en fait, non, mon projet, c'est un peu éloigné du sujet lui-même des vieux croyants pour se concentrer sur un mode de vie, la construction d'une utopie au milieu de la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, les familles que je filme sont d'origine des vieux croyants, mais se sont un peu, ouverts à ce qu'ils trouvent intéressant dans la civilisation, et en tout cas russe ou occidentale, et rejettent certaines choses, mais en acceptent d'autres. Et de la même manière, à l'intérieur des membres de la famille, il y a des confessions différentes. C'est-à-dire quand on essaie de comprendre le culte de chacun, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent une prière avant de passer à table, il y en a qui n'en disent pas, il y en a qui en disent de manière différente, et en fait on comprend que le frère n'a pas exactement la même confession que... Enfin, le petit frère n'a pas exactement la même confession que le grand frère, qui n'est pas exactement celle du père, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque membre de cette famille est un schisme à lui tout seul, et en même temps tout ça cohabite de manière extrêmement pacifique.
Cohabite et en même temps de façon extrêmement séparée, parce que ce que vous avez constaté, c'est que les familles, les différentes familles sont vraiment séparées les unes des autres. On cohabite, mais on ne vit pas vraiment ensemble.
Ça, c'est le deuxième sujet. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en pensant trouver une seule famille. Et en fait, il y en avait deux. Mais j'ai mis du temps un petit peu à le comprendre, parce qu'évidemment, comme les repères ne sont pas tout à fait les mêmes que dans un village traditionnel, là, on est entouré par 500 kilomètres. On est dans un rayon de 500 km de taïga tout autour. Le premier village, il est à 500 km et c'est 10 cabanes de bois avec une ligne téléphonique, quoi. C'est le premier village, le village le plus proche. Alors ensuite, dans cet endroit complètement coupé du monde, je me suis rendu compte que tout d'un coup, il y avait une barrière et que les choses n'étaient pas tout à fait pareilles d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et petit à petit, on a compris qu'il y avait deux familles. Qu'il y avait une deuxième famille qui avait voulu rejoindre la première qui s'était installée, parce qu'ils avaient réussi à créer une sorte de petit paradis dans cet enfer climatique qu'est la Sibérie, et dans cet enfer, social et politique qu'est cette région de la Sibérie, où c'est des populations qui sont quasiment livrées à elles-mêmes. Je passe les détails. Ça peut être des clichés, mais en même temps, c'est assez vrai, de violence ou d'alcoolisme qui ravage des villages ou des régions entières, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Et donc, les villages sont un peu livrés à eux-mêmes. Et eux, cette famille a réussi à créer une sorte de modèle très paisible où ils arrivent dans... enfin, ils arrivent à cultiver des pastèques, par exemple, voilà, au fin fond de la Sibérie. Il y a un peu d'élevage, ils arrivent à vraiment faire pousser beaucoup de choses. Et tout ça avec des températures extrêmes l'hiver comme l'été, déchiqueté par des moustiques l'été et pris par la neige l'hiver. Mmh. Et donc, cette deuxième famille a essayé de les rejoindre. À partir du moment où ils sont installés, pour essayer de partager ça, et ben ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à se retrouver autour d'un récit commun, autour d'une même considération sur l'usage des ressources, l'usage de la forêt, la pratique de la chasse. Ils avaient des manières radicales de penser, de voir les choses. Et du coup, ils se retrouvent dans une échelle toute petite, concentrée des problèmes de civilisation et de communauté extrêmement essentielles, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vécus à une échelle universelle aujourd'hui, quoi.
Merci beaucoup Clément Cogitor pour découvrir ces familles, cette exposition Braguino qu'on pourra voir à partir de l'automne 2017 au Bal à Paris. Merci beaucoup. Qu'on entend à l'instant, c'est La Covenchina, un opéra de Moussorgski, d'après un livret qu'il a lui-même rédigé en s'inspirant justement des événements de la révolte de Moscou de 1682. C'est dans ce cadre que s'inscrit justement cette dissidence réprimée dans le sang. Une partie de ces orthodoxes russes qui vont refuser la réforme, une résistance qui s'était notamment illustrée par des suicides collectifs. On parle quand même de 20 000 personnes à l'époque. Merci à Clément Cogitor qui était avec nous. Paul Arnoux, hein, on l'a entendu, hein, la forêt, c'est un endroit propice pour la construction des utopies. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin pour poursuivre ces pérégrinations dans les mythologies forestières. J'invite les auditeurs à lire ce livre qui était paru chez Fayard, Au plaisir des forêts, promenade sous les feuillages du monde. Un grand merci de nous avoir accompagnés ce matin, c'était un plaisir.
Merci à vous de m'avoir accueilli.